Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les filles et leur mère est un essai de psychologie familiale écrit par Aldo Nauri, pédiatre connu pour ses ouvrages sur la parentalité. La filiation et la place de chacun dans la famille. Publié chez Odile Jacob et régulièrement réédité, le livre examine une relation à la fois intime et structurante celle qui unit une fille à sa mère. Nauri immobilise son expérience clinique de médecin, une culture psychanalytique et une observation attentive des situations familiales pour analyser les attentes, les rivalités, les fidélités et les transmissions qui traversent ce lien. Le propos ne se limite pas aux conflits visibles entre générations. Il cherche surtout à comprendre comment une fille construit son identité féminine, affective et familiale en se séparant progressivement de la mère tout en restant marquée par elle. Le livre appartient au domaine des essais cliniques destinés au grand public cultivé, avec une ambition pratique rendre plus lisibles des tensions souvent vécues comme naturelles, culpabilisantes ou insolubles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la relation mère-fille comme matrice de construction identitaire. Nauri traite le lien mère-fille comme une relation fondatrice, parce que la mère est souvent le premier modèle féminin disponible pour la fille. Cette proximité rend le processus de construction identitaire plus complexe que la simple imitation. La fille reçoit des gestes, des attentes, des manières de parler du corps, du couple, de la maternité ou de la réussite, puis doit transformer cet héritage pour devenir un sujet distinct. Le livre insiste ainsi sur une tension centrale, la ressemblance rassure, mais elle peut aussi emprisonner si elle interdit la différenciation. La séparation ne signifie pas rupture affective, elle désigne la capacité de la fille à penser, désirer et choisir sans devoir confirmer en permanence le scénario maternel. Cette lecture donne un sens clinique au conflit banal du quotidien désaccord sur le corps, les choix amoureux, la manière de éduquer les enfants ou la place du travail. Ces frictions deviennent les signes visibles liés à une négociation plus profonde autour de son autonomie psychique. Deuxièmement, les transmissions invisibles entre femmes de générations différentes, un apport important du livre tient à son attention aux transmissions intergénérationnelles. Nauri ne réduit pas la relation mère-fille à deux personnalités qui se comprendraient mal, il la situe dans une chaîne familiale où circulent des loyautés, des peurs, des blessures et des idéaux. Une mère transmet parfois moins ce qu'elle dit que ce qu'elle laisse percevoir sa façon de vivre sa propre mère, son rapport au corps féminin, sa vision des hommes, son expérience du couple ou de la solitude. La fille peut alors hériter de messages contradictoires, par exemple, recevoir une injonction à être libre tout en sentant que cette liberté menace la mère. Le raisonnement clinique consiste à rendre visibles ces messages implicites pour éviter qu'ils deviennent des destinées silencieuses. Cette perspective aide à comprendre pourquoi certains conflits paraissent disproportionnés. Ils réactivent des histoires antérieures que personne ne formule clairement. Elle explique aussi pourquoi la parole directe peut parfois dénouer une tension ancienne. Le livre invite donc à lire le présent familial comme un lieu de reprise, de déplacement et parfois de correction des héritages reçus. Troisièmement, ambivalence affective entre attachement, admiration et défense de soi. Nauri place au centre une ambivalence affective utile pour sortir des jugements moraux sur les relations mère-fille. Une fille peut aimer profondément sa mère, chercher son approbation, puis ressentir en même temps une fatigue, une colère ou une sensation de trop-plein. La mère peut se montrer protectrice tout en projetant sur sa fille des attentes qui dépassent les besoins réels de celle-ci. Le livre montre que cette coexistence de tendresse et de tension ne relève pas automatiquement de la pathologie. Elle fait partie d'une relation où chacune engage une part de son image de soi. Plus la fille grandit, plus la mère peut être confrontée au passage du temps, à ses propres renoncements ou à la comparaison avec une féminité plus jeune. De son côté, la fille peut chercher à prendre distance sans vouloir blesser. Cette analyse permet de nommer les conflits sans les dramatiser. Elle rappelle que la maturité relationnelle ne consiste pas à effacer la colère, mais à empêcher que la colère devienne le seul langage disponible. Quatrièmement, une lecture clinique nourrie par la pédiatrie et la psychanalyse. Le livre se distingue par une méthode hybride, issue de la pratique de pédiatre et nourrie par une culture psychanalytique. Nauri observe les familles à partir de situations concrètes, consultations, échanges autour des enfants, inquiétudes éducatives, tensions de couple et récits sur l'enfance. Cette position donne au texte une tonalité différente par rapport à un manuel universitaire. Le raisonnement part souvent de signes ordinaires, puis cherche le mécanisme affectif ou symbolique qui les rend intelligibles. La pédiatrie apporte une attention au développement, aux places familiales et aux effets de la parole parentale sur le jeune sujet. La psychanalyse fournit un vocabulaire pour penser désir, rivalité, identification, dette et séparation. Cette alliance explique la force et la difficulté du livre. Elle permet de dépasser les conseils rapides, mais elle suppose que le lecteur accepte une lecture interprétative, parfois éloignée des approches contemporaines plus expérimentales. Comprendre cette méthode est essentiel. Nauri ne propose pas une recette éducative universelle. Il invite à regarder la manière dont une situation familiale répète, masquent ou déplacent des enjeux plus anciens. En dernier lieu, des repères pour apaiser sans nier la complexité du lien. Sur le plan pratique, le livre ne fournit pas un protocole de communication familiale. Son utilité tient plutôt à la clarification des places. Pour une mère, il suggère de distinguer soutien et emprise accompagnée d'une fille ne revient pas à prolonger sa propre histoire à travers elle. Pour une fille, il aide à comprendre que prendre distance ne signifie pas forcément trahir ni renoncer à la gratitude. Cette mise au point peut transformer la manière d'entendre les reproches, les silences ou les demandes répétées. Au lieu de rechercher immédiatement un coupable, le lecteur peut se demander quelle attente non dite organise l'attention. Le livre conserve toutefois une orientation marquée par la pensée psychanalytique et par une conception exigeante des rôles familiaux. Certains lecteurs peuvent trouver cette perspective moins compatible avec les débats actuels sur la diversité des configurations parentales. Cette limite ne supprime pas son intérêt, elle invite à lire Nahouri comme une proposition clinique située. Utile pour questionner le lien mère-fille plutôt que comme une norme à appliquer mécaniquement. En conclusion, Les filles et leur mère convient aux lectrices et lecteurs qui souhaitent comprendre la relation mère-fille au-delà des explications immédiates par le tempérament, la mauvaise volonté ou le conflit de génération. Les mères peuvent y trouver des outils de réflexion sur la frontière entre protection et projection. Les filles adultes peuvent y reconnaître des mécanismes de loyauté, de culpabilité ou de désir de séparation. Les professionnels du champ éducatif, psychologique ou familial, peuvent aussi en tirer une grille de lecture pour mieux entendre la charge affective de situations apparemment ordinaires. Son bénéfice principal est intellectuel autant que pratique. Il donne des mots à des tensions diffuses sans promettre une résolution simple, par rapport à des guides parentaux plus prescriptifs. Le livre se distingue par sa profondeur clinique et par sa volonté de relier les gestes quotidiens à une histoire familiale plus longue. Par rapport à des essais strictement universitaires, il reste accessible grâce à son ancrage dans son expérience médicale et dans les réalités domestiques. Il est surtout pertinent pour un public prêt à accueillir des analyses nuancées plutôt que des réponses rapides. Sa limite est aussi sa singularité, une lecture psychanalytique assumée, parfois discutée, mais précieuse pour penser le lien mère-fille comme un processus de transmission, de séparation et de réaménagement permanent. Si vous souhaitez soutenir Aldo Nahouri, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.